Vous êtes jeune? Vous êtes curieux? Nous avons de l'énergie à partager ensemble tous les jours sur Radio Okapi. De 15 à 17 heures, c'est Total Énergie. 2 heures de musique, Actu People, Emploi, Environnement. Nous ouvrons le dictionnaire dans J'aimerais savoir. Nous vous donnons aussi la parole dans Regard d'avenir, Point de vue et Portrait de jeunes. Chaque jour, jouez avec une question de connaissance générale. Pour mettre le feu de 15h à 17h sur Radio Okapi, Total Énergie, c'est l'énergie totale.
Comment valoriser les savanes de la République démocratique du Congo? Eh bien, le Congo, la RD Congo, compte plusieurs savanes herbeuses à travers le pays. Cependant, il est possible de valoriser les ressources de ces milieux. Alors, comment arriver à le faire? Quelles sont les techniques? Qu'est-ce qui doit être fait exactement? Eh bien, nous aurons les détails, les réponses à toutes ces questions avec notre invité, M. Jean Marron Malotti. Il est expert en aménagement et gestion intégrée des forêts tropicales. Monsieur Jean Marron, bonjour.
Bonjour.
Oui. D'abord, la première question, comment définissez-vous une savane? Qu'est-ce qu'on entend par savane?
Ok, merci beaucoup pour la question. Par définition, il y a plusieurs définitions sur la savane. En ce qui me concerne, je peux définir la savane comme suit. La savane, c'est un écosystème qui est d'abord un écosystème vraiment complexe, marqué par la coexistence de la strate herbacée, donc les herbes, mais aussi de plusieurs strates arbustives, donc les arbustes ou les arbres, mais dont l'ensemble est sous l'effet de l'interaction de plusieurs facteurs environnementaux, dont les régimes de pluie, les rôles de feu, mais aussi de l'élevage. Mais il faut aussi ajouter la nature du sol. Voilà un peu de façon ramassée comment je peux proposer une définition de la savane aux auditeurs de l'Okapi.
Voilà, on retient que c'est un écosystème où on trouve des herbes et des arbustes. Voilà. Oui. Alors, quels sont sur le territoire national, la savane occupe les zones. La savane occupe quelle proportion aujourd'hui?
Bon, c'est vraiment relatif. C'est vraiment relatif. De façon générale, les savanes occupent environ 18% du territoire national, quoi. Environ 18%.
Environ 18% du territoire national.
Oui. Les savanes. D'après les rapports de l'ISPIAFIA, ou bien de la DIAF, la Direction des inventaires forestiers.
Et c'est généralement dans quelle partie du pays, dans quelle province, où on trouve beaucoup plus les savanes?
Bon, beaucoup plus les savanes. Je dirais que c'est d'abord dans la province du Bas-Congo et une bonne partie du sud de la province du Bandundu et des Kassai aussi, mais aussi des Katanga. Mais il faut aussi ajouter le nord de l'Équateur, donc le nord du sud Ubangi et le nord Ubangi aussi. Mais aussi au nord de la province orientale dans la région du parc de la Garamba, voilà. C'est un peu dans des zones où on trouve plus de savanes en RDC.
Voilà. Alors aujourd'hui, comment peut-on valoriser les savanes?
Bon, pour valoriser les savanes, il y a une technique qui est mise en place qu'on appelle la mise en défense. La mise en défense, c'est une opération qui consiste à interdire les feux pendant un certain nombre d'années. On est dans la zone des savanes, dans le but d'occasionner un peu la régénération naturelle. Là, c'est dans le cas où on veut récupérer de la terre à des fins agricoles.
Comment vous appelez ça, la mise en défense, c'est ça?
La mise en défense des savanes.
Oui.
Oui. Là, c'est pour des raisons purement de la restauration du sol à des fins agricoles. Mais si c'est pour l'élevage, il y a ce qu'on appelle l'effet de brousse, hein, l'effet de brousse actif. Donc, l'effet de bourse au début de la saison sèche, ou bien elles peuvent être les retours des pluies. Donc le but, c'est de vraiment ne pas beaucoup endommager les herbes, quoi. Là, c'est pour la maîtrise du pâturage. Mais si c'est à des fins agricoles, c'est comme si c'était vraiment le besoin actuel. Donc, la technique s'appelle la mise en défense, qui consiste à une interdiction de feu de brousse pendant un certain nombre d'années, dans le but de reconstituer le couvert végétal et la fertilité du sol. Voilà.
Alors, et pourquoi on peut mettre le feu de brousse en début de la saison sèche?
Bon, en début de la saison sèche, c'est parce que en début de la saison sèche, l'humidité est encore importante dans la strate herbacée. Et en ce moment-là, le feu qu'on met n'est pas vraiment destructif vis-à-vis de la végétation. Mais par contre, au milieu de la saison sèche, l'humidité au niveau du sol est vraiment réduite et le feu, en ce moment-là, est plus désavantagé vis-à-vis de la végétation.
Alors, si je comprends bien, ce feu de brousse permet aux chasseurs de pouvoir attraper les gibiers.
Bon, c'est aussi un mécanisme de chasse, pardon, qui est utilisé par la population locale, quoi. Donc, pour avoir un peu de gibier, mais aussi avoir une bonne vue pour débusquer les animaux qui se cacheraient.
Ouais. Alors, quels sont les animaux qui se cachent généralement dans les savanes?
Bon, dans la plupart des cas, ce sont plus les rongeurs. Hein. Bon, pour les cas de la RDC, c'est plus les animaux qu'on appelle holacodes en français et les chimbriques en lingala, quoi. Mmh. Il y a aussi les porcs épics, mais qui ne sont pas vraiment les animaux de la savane, mais qui vivent dans la zone de transition entre la savane et la forêt. Hein, ils côtoient de temps en temps la savane et ils rentrent en forêt. Mais c'est plus les rongeurs qu'on trouve dans les savanes, si on comprend pas.
Voilà. Mais est-ce que toujours parlant de la mise en valeur des savanes, est-ce possible, par exemple, de constituer une forêt artificielle avec des arbres à croissance rapide?
Oui, c'est toujours possible. Bon, ça fait quoi, un deuxième volet de ce que nous appelons la mise en défense. Oui. Dans ce cas-là, ça ne sera plus une mise en défense naturelle, mais ça sera une mise en défense assistée. Donc, on interdit le feu, mais on aide la forêt en introduisant des espèces qu'on veut, des espèces à croissance rapide, quoi.
Voilà, donc, est-ce qu'il y a des endroits à travers le pays où déjà ces genres de projets sont déjà effectifs?
Bon, dans le cas de la mise en défense pure, il y a un projet pilote dans le Bas-Congo, dans le district du Bas-Fleuve, dans un village en Zonzi. Et un projet pilote qui a été mis en place par le WWF, donc le Fonds mondial pour la conservation de la nature. Mmh. Et en tout cas, c'est un projet qui a réussi. J'ai travaillé dans le cadre de ce projet comme un consultant pour évaluer un peu le processus de la régénération naturelle. Après 6 ans de mise en défense, les résultats sont vraiment positifs.
Et c'était dans quelle partie du pays?
Dans les Bas-Congo, dans les districts du Bas-Fleuve, en dépassant un peu Matadi.
Voilà. Et quelles sont ces espèces d'arbres à croissance rapide qu'on peut planter dans ces savanes?
Bon, en ce qui me concerne, je proposerai les espèces qui sont actuellement en vogue. Il y a l'acacia, bien que ce ne soit pas des espèces autochtones, ce sont des espèces exotiques. Mais moi, je préconiserais, en tout cas, plutôt qu'on valorise nos espèces locales, mais qui ont aussi une croissance rapide. Il y a, par exemple, je peux dire, l'extrême orientalis. Il y a aussi et Makaranga, Spinoza et Makaranga, Monandra. Bon, là, ce sont des
noms scientifiques.
Oui. Ouais, ce sont des noms scientifiques. Il n'y a que des scientifiques qui pourront vraiment comprendre ça. Ouais. Voilà un peu les trois espèces quoi, locales, en tout cas, qui ont une croissance rapide, mais qui permettent aussi le retour un peu plus rapide de la forêt. Vous allez oublier, il est aussi Anthocleis tavogeli, en tout cas, qui est une espèce indicatrice de la conversion de la végétation. Donc, une espèce intermédiaire entre la savane et la forêt secondaire. Voilà un peu, ce sont des espèces qui ont une croissance rapide. Des espèces locales qui ont une croissance rapide. Mais comme maintenant, à la vogue, on utilise plus les acacias, mais en ce qui me concerne, j'encouragerais qu'on utilise plus les espèces locales qui sont adaptées à nos conditions et qui pourront permettre un retour rapide de la forêt, quoi.
Oui. Comment valoriser les savanes de la RDC? Jean Marron Malotti, expert en aménagement et gestion intégrée des forêts tropicaux, et l'invité d'Okapi Service. Si vous voulez participer, appelez-nous au 081-890-6394.
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi, de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiookapi.net.
Comment valoriser les savanes de la RDC? Monsieur Jean Marron Malotti, expert en aménagement et gestion intégrée des forêts tropicaux, et l'invité d'Okapi Service. Monsieur Jean Marron, vous participez à un projet de valorisation des savanes dans la réserve de la Rouquie. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet?
Oui, en fait, c'est un projet de la mise en défense des savanes anthropiques. Donc, les savanes anthropiques, c'est en fait les savanes qui sont la conséquence des activités humaines. Donc, dans le cas du Bas-Congo, les maillons les plus évolués de la végétation, c'est la forêt. Mais malheureusement, on remarque que dans le Bas-Congo, il y a plus de savanes que de forêts, alors que les conditions climatiques du Bas-Congo, en tout cas, sont plutôt vraiment élégante pour la présence de la forêt. Mmh. Mais on remarque qu'il y a plus de savanes. Donc, ces savanes sont donc les conséquences des activités humaines. Donc,
de la pression humaine sur la forêt.
Oui. Voilà. Mmh. L'agriculture subrélie, le fait de brousse, la répétition, et c'est un peu des choses comme ça. Mais il faut aussi que je signale qu'il y a aussi des savanes qu'on appelle des savanes édaphiques. Donc, les savanes qui sont liées à des conditions qui sont liées au sol. Et ces savanes-là sont un peu plus difficiles à convertir en forêt parce que c'est plus la nature du sol qui conditionne la présence de ces genres de savanes. Mais la littérature, en tout cas, la littérature est plutôt d'avis que la grande partie des savanes du Bas-Congo est plutôt anthropique. Voilà.
Bien. Et dans ces savanes, est-ce que la terre, est-ce qu'on peut facilement faire l'agriculture? Est-ce que la terre est fertile dans ces zones?
Bon, c'est vraiment relatif. C'est en fonction aussi des différentes cultures, qu'on peut utiliser. Mais, parce qu'il y a des cultures qui sont plus exigeantes, qui demandent plus de sols vraiment fertiles que les autres. Mais de façon générale, les forêts des savanes sont des forêts qui ne sont pas vraiment fertiles dans nos conditions de l'Afrique, quoi. Dans nos conditions de l'Afrique, parce qu'il y a, ce qu'on appelle les lessivages. Donc, plus un sol est né, plus le taux de lessivage est élevé. Donc, les lessivages, c'est le phénomène par lequel les éléments minéraux du sol sont emportés par les eaux de pluie, soit les eaux de ruissellement ou bien les eaux d'infiltration. Et dans ces savanes, le sol est généralement appauvri.
Alors, mais comment expliquez-vous le fait que le sol est appauvri, mais on voit souvent des herbes sauvages pousser rapidement?
Bon, les herbes se trouvent, en tout cas dans leur milieu naturel. Ils sont en équilibre avec leur milieu naturel. Mais nos cultures, vous voyez que lorsque vous cultivez un champ, vous voyez que les herbes envahissent le plus vite les cultures que nous mettons en place. Parce que les mauvaises herbes sont en équilibre avec leur milieu. Mais nos plantes ne sont pas vraiment adaptées à ces sols. Et aussi, suite à la compétition que les herbes exercent sur la matière nutritive du sol vis-à-vis des plantes que nous mettons en place.
Bien, nous savons.
C'est vraiment naturel qu'ils croissent bien parce qu'ils sont dans leur milieu. Et par contre, nos plantes, non.
Bien. Nous avons en ligne Aimé depuis Siro, en province orientale. Bonjour, Aimé.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui. J'ai une préoccupation, une question à notre invité. Ici, à Siro, les petites savanes que nous avons, en tout cas, ne sont pas valorisées. Et je voulais poser la question à notre invité. Si au bruit les savanes, là, est-ce qu'ils sont autorisés? Il y a des spécialistes là, chasse, qui attendent que pendant la saison sèche, oublier les savanes, soi-disant, qui chassent les animaux. Est-ce qu'il y a une loi qui condamne cela?
Bien, merci, Aimé. Jean Marron.
Oui.
Vous avez suivi la question d'Aimé depuis Siro. Elle dit les savanes, il y a beaucoup de savanes à Siro, mais qui ne sont pas valorisées. Et elle a remarqué une pratique pendant la saison sèche, les chasseurs mettent le feu de brousse pour chasser, pour traquer les gibiers, les animaux.
Oui. Là, c'est la.
Est-ce qu'il y a une loi qui gère aussi ce domaine-là?
Oui, il y a dans le code forestier, il y a. On interdit l'usage du feu, en tout cas sans but, l'usage du feu sur la végétation est vraiment interdit, quoi. Mais ce qui se passe dans les savanes, c'est que les feux de brousse sont vraiment nocifs dans la régénération de l'écosystème. Donc, à chaque fois qu'on met un feu dans une savane, on recule l'écosystème d'environ 50 ans. Et parce qu'avec l'expérience et la mise en défense,
oui.
Ici dans les Bas-Congo, on est arrivé à estimer que pour qu'il y ait la présence de la forêt secondaire jeune d'abord, il faut au moins 10 ans. Donc pour partir de la savane à une forêt secondaire jeune. Donc il faut au moins 10 ans. Et vous voyez que donc pour arriver à une forêt secondaire adulte, il nous faut environ 25, 30, 50. Donc, les feux de brousse sont vraiment destructeurs de notre écosystème. Ils reculent l'écosystème de plusieurs années. Or, en Afrique en général et dans notre pays en particulier, nous assistons à ces phénomènes. Dans toutes les provinces où il y a des savanes, c'est la même chose. Donc, au début de la saison sèche, donc pour raison de chasse, on met du feu. On recule vraiment de l'écosystème. Il y a même des gens, en tout cas pour raison de. Je dirais de plaisir seulement pour voir le feu, ils mettent du feu. Or, la loi est contre les pratiques de ces gens.
Bien. Comment valoriser les savanes de la RDC? Ogi Bendelo nous appelle les Kikuit dans le Bandundu. Bonjour.
Bonjour, jeudi. Je salue notre invité, Jean Marron. Bon début de semaine aussi à tous les auditeurs de la radio Capi qui nous suivent en ce moment.
Bien, Ogi, on vous écoute.
Merci, car le sujet est intéressant. Je voulais poser la question à notre invité. Vous savez, monsieur Jody, selon les analyses faites, j'espère que dans l'étendue nationale, les premiers territoires à avoir tout de savoir, c'est le territoire de Gungu, principalement dans la province de Bandundu.
Le territoire de Gungu.
Je m'étonne si. Pardon?
Vous parlez du territoire de Gungu qui a.
Oui.
Beaucoup
j'ai parlé
de zones...
du territoire de Gungu qui a assez. Des savanes. Alors, lorsque je suis en train de suivre notre invité, je suis étonné parce que on n'a jamais entendu parler de la loi sur les savanes même quand il a parlé de mise en défense, c'est-à-dire interdire les faits, mise en valeur, on n'a jamais entendu parler de cela. Mais sauf, j'ai souligné une chose, il a parlé d'une organisation non gouvernementale, donc d'une ONG là. Alors, je pose la question, cette ONG est à quel niveau, dans quelle province, et comment cela pourra aussi atteindre une province que les Bandundu, et surtout principalement dans les territoires de Gungu.
Merci, Ogi. Jean Marron.
Oui, j'ai suivi la question.
Ok, qu'est-ce que vous pouvez dire à Ogi?
Oui, l'organisme, c'est le WWF. Donc, en anglais, c'est Worldwide Fund of Nature. Donc, le Fonds mondial pour la nature. Donc, l'ONG existe ici au Congo. Il opère dans le Bas-Congo et dans le Bandundu aussi. Je pense qu'il est beau. Il y a aussi à l'équateur ainsi qu'à l'est. Alors, pour le taux des savanes, bon, je dirais que par rapport à la superficie de chaque, à la superficie des provinces, donc c'est dans la province du Bas-Congo. Hein. Donc je parle en termes de superficie.
Mais il nous dit que le territoire de Gungu a beaucoup plus de zones, a beaucoup plus de savanes que les autres provinces, et pourtant il a l'impression que ce territoire est négligé, les savanes de ces territoires sont négligées.
Non, je dirais plutôt ceci. En termes de superficie de chaque province, oui, en termes de couverture de savane par rapport à une province donnée, nous savons que la province du Bandundu est plus vaste que la province du Bas-Congo. Mais la province du Bas-Congo est la province la plus déforestée de la RDC, avec un taux de déforestation de 0,6%, donc à peu près les trois fois de la moyenne nationale. Mais quand on prend la superficie du Bandundu pour comparer par rapport à la province du Bas-Congo, il peut avoir raison. Mais si on doit comparer chaque les provinces par rapport à elles-mêmes, c'est la province du Bas-Congo qui est plus déforestée. Bon, et il y a une autre question où il dit...
Oui, et sa deuxième question, oui. De savoir est-ce qu'on peut valoriser, est-ce que ces ONG peuvent venir là-bas. Vous avez parlé du Fonds mondial pour la conservation, oui, de la nature, oui. Et d'autres structures. Est-ce que ces structures peuvent aller à un territoire des Gungu pour valoriser?
En fait, le projet dans lequel j'ai travaillé, c'est encore un projet pilote. C'est en fonction de la réussite de ce projet. Donc nous allons étendre les activités de ce genre dans les différentes provinces. Mmh. Mais comme déjà dans le Bas-Congo, il y a des résultats. Après 6 ans de mise en défense, nous avons obtenu des résultats positifs. Je pense que d'ici peu, les mêmes projets de ce genre, en tout cas, seront répliqués dans plusieurs provinces, dans le cadre des projets RED aussi. Donc, réduction des émissions dues à la déforestation et la dégradation des forêts. Voilà, je demanderai à mon auditeur spécialement d'être un peu plus patient. Donc, les projets de ce genre vont vraiment se multiplier dans l'ensemble des provinces qui ont des savanes en RDC.
Bien, on va terminer avec Samuel qui nous appelle les Bounis. Hein. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Je voudrais poser une petite question. Est-ce que dans une savane, est-ce qu'il y a des plantes qu'il faut retirer de savane ou il y a des plantes qui sont toxiques? Alors, quelles sont ces plantes? C'est parce que je ne serais pas dans une savane où on avait...
Oui, Samuel, la communication n'est pas du tout bonne. Veuillez vous déplacer un tout petit peu. Vous posez la question de savoir s'il y a des plantes qui sont adaptées à la savane et d'autres non, c'est cela?
Oui.
Ok, merci. Jean Marron.
Oui.
Quelles sont les plantes qui s'adaptent facilement à ces gens des zones à la savane, je veux dire?
Oui, il y a vraiment des plantes qui sont adaptées à des zones de savane parce qu'ils ont la capacité de supporter le passage annuel des feux de brousse. Je ne sais pas si mon nom. Un interlocuteur est ma botaniste, mais je vais lui donner quand même les noms des espèces les plus communes des savanes de la RDC. Il y a les Mapurnea africana, il y a Hymenocardia acida, avec lesquels on fabrique aussi beaucoup des produits.
Est-ce qu'il n'y a pas d'autres, ça c'est de nom scientifique, il n'y a pas d'autres noms que les gens maîtrisent facilement?
Bon, si je vais donner les noms, en tout cas ça sera plutôt les noms des dialectes.
Oui, allez-y, certains vont oui, les reconnaître.
Oui, du Bas-Congo. Mmh. Il y a les Mvete par exemple. Il y a aussi Tumbi Teke. Voilà un peu, ce sont les espèces de la savane, donc les Nocléa, Nocléa latifolia. Voilà, en tout cas, ce sont les espèces qui sont adaptées dans les régions des savanes, pour par suite de leur écorce épaisse, mais aussi des sillons dans les troncs, pour qu'ils leur permettent de résister à des passages annuels de feux de brousse.
Bien, merci, Monsieur Jean Marotti. Maro Malotti, je rappelle qu'il est important, il est aujourd'hui possible de valoriser les savanes de la RDC. Vous avez parlé de la mise en défense. On interdit les feux de brousse à des fins agricoles. On peut également planter des arbres à croissance rapide. Et vous avez parlé également des feux de brousse hâtifs. En début de la saison sèche, certains chasseurs utilisent les feux de brousse pour attraper les rongeurs et d'autres animaux. Voilà. Donc, on peut dire que c'est de cette façon qu'on peut arriver à valoriser les savanes. Il y a d'autres techniques à part cela?
Bon, la technique la plus efficiente, donc d'abord, en termes de coûts, en tout cas c'est vraiment la mise en défense, mais on peut aussi viser les reboisements, mais en ce qui me concerne, ainsi que par expérience, je proposerais plutôt aux gens donc la mise en défense parce qu'ils n'écoutent pas beaucoup. Si juste d'interdire les feux, de sensibiliser la population, mais moyennant des contreparties, parce que vous allez les priver d'exercer les activités dans des savanes, mais il faut créer dans ces cas-là des activités alternatives. En tout cas, c'est un peu ça. Il y a les reboisements, mais là aussi la mise en défense naturelle, mais aussi la mise en défense assistée. Donc, nous faisons la mise en défense, mais nous intervenons en introduisant des plantes à croissance rapide. Soit nous faisons seulement la mise en défense, nous laissons la nature se reconstituer.
Bien. Ingénieur Jean Maron Malotti, expert en aménagement et gestion intégrée des forêts tropicaux, merci d'avoir répondu à nos questions et à la prochaine.